France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission de géographie et des enjeux planétaires de France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble en direct de 16h à 17h. Et aujourd'hui, dans notre seconde émission inspirée par le nouveau Musée de l'Homme, focus sur la génétique des populations. L'homme est le fruit de millions d'années de mutations génétiques et d'évolution. Il n'est, pour ainsi dire, plus un seul espace de la planète Terre où l'espèce humaine ne se soit établie, manifestant une capacité de curiosité, d'expansion et d'adaptation impressionnante. En bref, l'espèce humaine a fait de toute la planète son territoire, transformant celui-ci en monde. Néanmoins, dans le cadre de cette forme première de la mondialisation, les hommes ont fait territoire de façon différenciée. Il y a des sociétés variées qu'on identifie parfois un peu rapidement et sans doute trop mécaniquement à des caractères physiques. On dit alors qu'il y a des peuples grands ou petits, au sens de peuples où les gens sont grands ou les gens sont petits. On constate que certains tolèrent très bien le lait, quand d'autres non, que certains sont dans leur élément en haute montagne, quand d'autres sont des marins. Et dans ces énoncés, l'idée reçue ou le cliché n'est jamais loin. Précisément, la génétique des populations s'inscrit en faux contre ces clichés. Plus que tout autre savoir et en relation féconde avec bien d'autres, la génétique des populations met à jour que culture et évolution biologique sont bien plus liées que nous ne le pensons souvent. La génétique des populations est l'étude des gènes appliqués non pas aux individus mais à des sociétés, à des ensembles d'hommes et de femmes qui font territoire. Et c'est bien pourquoi le nouveau Musée de l'Homme la met à l'honneur dans son exposition permanente. Alors, comprendre les mystères du peuplement avec la génétique des populations, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Élément de réponse avec Evelyne Heyer et Luis Quintana. Bonjour à tous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Evelyne Heyer, vous êtes anthropogénéticienne, professeure au Muséum national d'histoire naturelle et commissaire scientifique général de cette fameuse exposition permanente du Musée de l'Homme où Planète Terre, vous vous en souvenez les uns et les autres, vous avez proposé un itinéraire au moment de l'ouverture et puis à nouveau au mois de mars. Luis Quintana, pour votre part, vous êtes directeur de recherche CNRS et responsable du laboratoire de génétique évolutive humaine de l'Institut Pasteur, c'est bien ça ?
Exactement.
Bon, vous êtes l'un et l'autre contributeur de l'ouvrage collectif « L'homme peut-il s'adapter à lui-même » publié par les éditions Quae. Et je suis donc très heureux de pouvoir vous réunir à ce plateau, surtout que j'ai cru comprendre avant que l'émission ne puisse commencer que vous aviez beaucoup de choses à vous dire, preuve que ça fait un certain temps que vous ne vous étiez pas vu alors que vous en aviez très envie. Alors, je vais vous poser une première question, à la fois de géographe et peut-être très naïve. Est-ce qu'on connaît l'origine géographique précise de l'espèce humaine actuelle, Evelyne Heyer?
On sait que l'espèce humaine actuelle, elle vient d'Afrique. Elle sort d'Afrique il y a environ 70 à 100 000 ans. Maintenant, l'origine exacte en Afrique, on la connaît pas. Je suis pas sûre qu'on puisse la trouver avec les données génétiques. Et pour ça, je ferai plutôt appel à mes collègues paléoanthropologues.
Mais si vous le permettez, pourquoi cette expression « on », c'est-à-dire « nous », pourquoi « on sort d'Afrique » Sortir au sens sortir d'un berceau, sortir comme d'un accouchement, ou sortir au sens de on a quitté l'Afrique.
On l'a pas quitté, il y a des gens en Afrique.
Hein. D'où ma question.
Donc je disais on sort par rapport à nous qui sommes plutôt européens, mais effectivement l'homme moderne, donc la première partie de son évolution, environ 100 000 ans en Afrique, et après ça, il y a une sortie d'Homo sapiens de l'Afrique. Donc il y a bien sûr des gens qui restent en Afrique, il y a plein de mouvements migratoires en Afrique qu'on commence à connaître un peu mieux, mais il y a aussi l'homme va coloniser tout d'abord l'Australie, l'Asie, l'Europe et plus tard les Amériques.
Louise Quintana, vous êtes en phase avec ce que vient de dire votre collègue. Je vous pose la question parce que vous n'êtes pas de la même discipline, alors peut-être que vous avez un regard un peu différent.
Non, sur ça, bien sûr que je suis en phase. Quelque part, c'est une partie des Africains qui ont quitté l'Afrique et ont donné lieu à ce que c'est aujourd'hui, les Européens, les Asiatiques, les natifs américains. Moi, j'aime toujours faire l'analogie, disons que nous sommes, les Européens et les Asiatiques, par rapport aux Africains, ce que les Québécois sont par rapport aux Français.
C'est
une sous-population des Français qui fonde le Québec, une sous-population, un ensemble, une partie de la population africaine fonde ce que c'est aujourd'hui les Européens et les Asiatiques.
Alors là, vous venez d'employer un mot qui me paraît très important, bien qu'il soit très banal, le mot population, parce qu'après tout, dans génétique des populations, il y a ce terme dans un des ouvrages dans lequel Evelyne Heyer, vous êtes auquel vous avez contribué au moment de l'ouverture du musée de l'homme, un ouvrage dirigé par Yves Coppens, c'est par une édition autrement, le titre m'échappe à l'instant, mais
il y avait une belle histoire de l'homme qu'on a publié.
Oui, c'est pas celui-là que je pensais, mais on retrouvera la référence et surtout elle est déjà sur le site internet de Planétaire, mais j'ai été très intéressé par le fait que vous avez un dialogue, quand je dis vous les scientifiques des sciences dures, vous avez un dialogue avec Hervé Lebras, qui est démographe, sur l'emploi du mot population, qui est un mot très récent, si j'en crois Hervé Lebras, puisqu'il apparaît grosso modo au XVIIIe siècle, et qui prend vraiment toute sa signification avec Malthus. Et vous l'employez comme ça, sans aucune difficulté. On sait bien aussi qu'on l'emploie le mot population quand on veut parler aussi bien de la faune et de la flore, quand on est en biologie ou en génétique. Et donc du coup, génétique des populations, population ça veut dire quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que vous désignez, Louise Quintana?
Un ensemble d'individus. Après, comment on va les inférences ou les déductions qu'on fera de ce qu'on trouve d'un point de vue génétique dans cet ensemble d'individus, c'est autre chose. Après, il y a des individus d'un même continent, avec tous les mélanges que ça peut entraîner, des individus qui font une population qui parle la même langue, c'est une autre façon de délimiter une population, la même ethnie, il y a même des gens qui peuvent le définir avec les différentes gradations de couleur de la peau, c'est très subjectif, mais population en tant que telle, c'est pas autre chose qu'un ensemble d'individus.
Dans la définition, au départ, il y avait l'idée en plus que c'était un ensemble d'individus qui avaient une probabilité relativement élevée de pouvoir se reproduire ensemble. C'est comme ça que ça avait été défini comme concept en biologie et en biologie des populations. Mais je rejoins Louise, ça dépend de l'échelle à laquelle on se place. L'idée, c'est quand on fait de la génétique des populations, on définit toujours la population sur laquelle on travaille. On peut comparer des villages, on peut comparer des continents.
Vous l'avez fait par exemple? Vous avez, je sais notamment que vous avez fait un terrain important en Asie centrale.
Oui, tout à fait.
Alors déjà, pourquoi l'Asie centrale? Pourquoi vous avez choisi ce terrain-là? Peut-être que c'est pour des raisons totalement soit anecdotiques, soit un peu, contingentes. Mais on est dans une émission de Culture Science, donc ça nous intéresse toujours de connaître un peu l'atelier du chercheur.
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je souhaitais mener des recherches où on comparait des populations humaines qui ont des modes de vie différents et aussi qui parlent des langues différentes, mais qui ont des modes de vie différents. Et donc on avait monté au début un projet en Afrique centrale, d'ailleurs avec Louise, on avait monté ça dès le début, où là on comparait des chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs. Et en fait, l'idée c'était d'étendre cette comparaison à d'autres comparaisons, et l'Asie centrale était très intéressante parce qu'il y a des populations de nomades, de pasteurs nomades, enfin qui étaient pasteurs nomades, et des populations d'agriculteurs. Donc c'est des endroits du monde où on a dans un même environnement des gens qui ont des modes de vie très différents. Et à partir de là, on peut réfléchir à en quoi ces modes de vie vont jouer sur des différences génétiques, oui ou non.
Et Louise Quintana, effectivement, un de vos terrains, en tout cas celui que j'ai découvert en allant sur les sites soit du CNRS, soit de l'Institut Pasteur, soit des éditions Quae, où on peut avoir accès à certains de vos articles. Vous, c'était plutôt l'Afrique centrale et en particulier le Gabon et la République centrafricaine.
Oui, oui, c'est plutôt le Gabon. Mes intérêts pour l'Afrique sont commencés il y a une vingtaine d'années, quand j'ai fait ma thèse en Italie, où on s'intéressait à l'Éthiopie, notamment à deux populations, les Oromos et les Amaras, parce que pas seulement on parle des langues sémitiques, couchitiques et d'autres langues que se parlent en Afrique de l'Est, mais le fait d'être localisé dans le corps de l'Afrique les rendait des populations intéressantes pour mieux comprendre la façon dont l'homme a quitté l'Afrique, dont l'homme a sorti de l'Afrique. Et c'est en arrivant en France, il y a 17 ans que j'ai rencontré Evelyne, et eux sont des experts de terrain, de l'anthropologie génétique, mais aussi beaucoup de terrain. Et quelque part, c'est sa faute si je continuais à travailler sur l'Afrique. Et je me rappelle encore quand elle me disait, mais il faudrait que tu t'intéresses
au pygmée.
Exactement. Et c'est sur ça qu'on
travaille. Elle n'a pas voulu vous laisser sortir d'Afrique, vous.
Voilà.
Mais en fait, l'Afrique, c'était aussi parce qu'il y avait beaucoup d'ethnologues qui travaillaient là-dessus au musée de l'homme, enfin au muséum. Donc, pour faire un bon terrain, si on veut bien comprendre les humains, même avec les outils de génétique, il faut travailler avec des ethnologues, des musicologues, des linguistes. Sinon, on a du mal à interpréter nos données génétiques. Donc, le choix d'un terrain, il faut qu'il soit intéressant et en même temps qu'il y ait des gens qui puissent nous aider sur les aspects des sciences humaines. Et donc, au muséum, il y avait Serge Bahuchet, grand spécialiste des pygmées.
Mais Evelyne Ayer, vous dites ça comme une évidence ou comme quelque chose qui va de soi. Bah oui, bien sûr, quand on s'intéresse aux populations d'un point de vue génétique, on doit travailler avec des musicologues ou des anthropologues, mais c'est quand même relativement récent, on va dire, ce qui vous paraît, vous, comme une évidence en termes de méthode de travail scientifique. Louis Quintana.
C'est une évidence, mais c'est vrai que les différentes disciplines avaient comme habitude, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, de travailler très cloisonné. Et déjà, au début des années 80, notamment avec certains grands noms de la génétique, de l'archéologie, de la linguistique, ils ont commencé à vouloir mettre ensemble ces différentes disciplines pour éviter le risque de raconter une histoire génétique, une histoire linguistique, une histoire archéologique. Ils essayaient de s'approcher un peu à une histoire, à l'histoire, en regardant et en intégrant ces différentes façons de voir une même réalité quelque part.
Alors, en tous les cas, partons, si vous le voulez bien, restons un instant plutôt sur vos terrains pour avancer et monter en généralité. Qu'est-ce que l'un et l'autre vous avez mis à jour, vous, Evelyne Ayer, en Asie centrale, vous, Louis Quintana, donc au Gabon, en comparant comme ça des populations, pour reprendre votre mot, qui avaient des modes de vie, on ne dit plus genre de vie maintenant, hein, ça c'est une vieille expression de Vidal de la Blache, notre ancêtre à tous les géographes, hein, qui ont ou qui avaient des modes de vie différents. Qu'est-ce que ça vous a apporté et réciproquement, qu'est-ce que ça vous a permis d'apporter aux anthropologues, voire aux sociologues et aux linguistes? Lequel de vous deux veut commencer? Louis Quintana.
Moi, je pense que s'il y a une chose qui nous unit aux différents généticiens de population, et notamment ici à Evelyne et moi-même, c'est l'intérêt pour l'histoire de l'homme et l'histoire démographique de l'homme. Après, on a des intérêts ou des expertises qu'on a plus développées l'un et l'autre. Evelyne en parlera après. Evelyne, notamment toute la partie de forces culturelles et interactions culture-homme. Et moi aussi, peut-être, je me suis un peu contaminé dans le bon sens en étant dans l'Institut Pasteur, un intérêt pour la relation homme-environnement et homme-environnement pathologique, c'est-à-dire les pathogènes, les maladies infectieuses. Donc, je pense que une des choses qui m'a plus plu du travail des dernières 10 ans, c'est en gros essayer d'utiliser la génétique comme livre, comme lecture de comment l'homme s'est adapté à son environnement.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner, partager avec nous un exemple de découverte que vous avez fait en étudiant en particulier les populations du Gabon ou d'autres, hein, bien sûr.
Oui, une des découvertes que j'ai trouvé assez intéressante il y a quelques années, c'était pas nécessairement au Gabon, c'était plus généralement, c'était avec différentes populations africaines, européennes et asiatiques, c'était essayer de montrer que nos différences phénotypiques, c'est-à-dire que ce soit nos différences simplement physiques, la pigmentation de la peau, le développement des cheveux, mais aussi les différences entre grandes populations humaines, par rapport à certaines susceptibilités aux maladies, par rapport à leur adaptation au régime alimentaire, aux pathogènes, toutes ces différences qu'on a accumulées dans les dernières 60 000 ans sont dues au moins en partie à l'adaptation génétique à nos environnements respectifs. Ça, c'est une des choses que j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme concept. Et après, d'autres concepts plus récents, comme l'épigénétique, dont on va parler après.
En tous les cas, juste pour que je sois sûr de bien comprendre, vous êtes donc en train de travailler depuis plusieurs années au fait que l'environnement dans lequel on vit peut modifier nos gènes. On peut le dire comme ça, ou j'ai fait un résumé trop schématique?
On peut dire que l'environnement dans lequel on vit va faire que certaines mutations dans nos gènes vont augmenter en fréquence dans la population pour nous rendre plus adaptés à cet environnement climatique, nutritionnel, voire pathogénique.
Evelyne Heyer, alors, recherche que vous avez envie de partager avec nous?
Non, mais
il
y en a plusieurs. Ce qu'on a montré en Asie centrale, c'est que les différences génétiques entre les populations s'expliquaient, enfin, corrélaient bien aux différences linguistiques, ce qui est assez marrant. Donc, ce qu'on peut résumer, mais alors c'est vraiment un résumé lapidaire, c'est qu'en gros, les gens préfèrent se marier avec des gens qui parlent la même langue qu'avec quelqu'un qui habite dans le village d'à côté. Et donc ça, c'était intéressant parce que ça montre comment quelque chose de culturel va façonner les différences génétiques entre les populations. On a pu montrer aussi que les populations, comme elles ont des alimentations traditionnellement différentes, sont adaptées différemment. Il y a des gènes qui diffèrent, qui sont liés à l'adaptation à l'alimentation. Et l'autre chose qui nous a bien amusé, c'est de montrer aussi les différences qu'on appelle d'organisation sociale. C'est-à-dire, vous avez des sociétés où entre les populations, c'est plutôt les femmes qui bougent, les hommes bougent pas du tout. Et tous ces paramètres, un peu, on dit d'organisation sociale, ont des impacts sur la diversité génétique, sur les différences génétiques. Et à l'inverse, avec la diversité génétique, on peut retracer des paramètres d'organisation sociale. Et c'est ce qu'on a fait avec un collègue commun, Paul Verdu, et on a pu comme ça montrer que les sociétés en Afrique, notamment les pygmées, étaient a priori plutôt des sociétés, on dit matrilocales, c'est-à-dire où les femmes bougent peu d'un village à un autre au moment du mariage, mais où ce sont les hommes qui bougent entre les villages.
Alors, pour qu'on continue à parler de ce point et à l'approfondir, je vous propose d'introduire un petit élément perturbateur, si j'ose dire, à savoir un extrait d'un entretien qu'un de vos collègues, en l'occurrence Jacques Chiaroni, avait donné au journal de France Inter le 22 avril 2011, à 7h30 très précisément, me dit la documentation sonore, et vous allez voir qu'il compare le patrimoine génétique d'habitants de Provence à celui d'habitants d'Asie mineure.
EV13, c'est le nom de ce gène que des scientifiques ont retrouvé chez des Provençaux, des Corses et dans des populations de l'Asie mineure d'où venaient les Grecs de Phocé. 6 siècles avant Jésus-Christ, ces Grecs avaient colonisé Phocé, qui est aujourd'hui en Turquie. Ils sont remontés en bateau vers le nord de la Méditerranée et se sont installés sur les rivages gaulois. Ils ont laissé des vestiges, des amphores, des poteries et c'est sur ces sites, entre Martigues et Antibes, que des prélèvements sanguins ont été effectués dans la population. À l'origine de cette étude, Jacques Chiaroni, le directeur de l'établissement français du sang de la région PACA.
Nous avons regardé les gènes qu'ils portaient et nous avons pu comparer à d'autres populations de Phocée, de Smyrna en Asie mineure. Et nous avons détecté les mêmes gènes à hauteur de 4% environ dans la population autour de Marseille. Et dans ces conditions, on peut conclure que ce sont les premiers Phocéens qui ont probablement fondé Marseille.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Qu'est-ce qu'on peut tirer, selon vous, de ce genre de rapprochement ou de découverte?
Alors, il y a une partie qui est vraie, c'est que certainement si des individus partagent la même mutation et ce qu'on appelle l'haplotype, enfin la signature de la mutation autour, s'ils les partagent, c'est clair qu'ils ont certainement des ancêtres communs. De là à faire le raccourci de dire c'est venu à telle période par tel individu, c'est un peu
risqué.
Il faudrait beaucoup plus d'éléments avant d'arriver à vraiment valider cette affirmation.
Et
je sais pas ce que t'en penses, Louis.
Oui, je pense que c'est on est tous parfois tentés de coller ce qu'on trouve en génétique à un événement historique. Et, mais on navigue toujours parfois un peu dans des eaux troubles.
Pourquoi ? Pourquoi des eaux troubles ?
Parce que même, je ne veux pas dire que c'est jamais sûr ce qu'on voit, mais si on commence à réfléchir à tous les facteurs confondants qui pourraient expliquer d'une autre façon ce qu'on trouve, on s'arrête de travailler.
ça fait trop d'hypothèses, vous voulez dire. Il faut éliminer les hypothèses. Et pas. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez précédemment, Evelyne Heyer, qui me paraît, un énoncé, j'ai presque envie de dire, extrêmement rafraîchissant. Parce que, si je vous ai bien entendu, quand vous avez parlé de vos travaux et de vos résultats de recherche en Asie centrale, vous avez bien dit, ou en tout cas suggéré, que ce sont des pratiques sociales qui peuvent avoir pour conséquence une évolution de nos gènes.
Tout à fait.
Et donc là, on est, aux antipodes de certains clichés et de certains discours dont on sait qu'ils sont totalement faux, mais qui ont pu être tenus à une certaine époque, je pense à la fin du 19e ou la première moitié du 20e, mais qu'on retrouve encore parfois aujourd'hui, selon lequel c'est en fonction d'éventuelles particularités génétiques qu'on aurait tel ou tel type de comportement. Et,
oui.
et ce que vous êtes en train de nous expliquer tous les deux, c'est que la génétique des populations ou la génétique tout court vraiment a ouvert un nouveau terrain qui est que nos comportements sociaux, donc notre culture, notre anthropologie, peut modifier notre patrimoine génétique.
Oui, en fait, je l'ai écrit d'ailleurs dernièrement dans Sciences Humaines, pour moi, c'est ce qu'on appelle un renversement de paradigme.
Ben oui, c'est super important.
Oui, c'est très important. C'est pour ça que c'est bien de nous inviter pour qu'on puisse en parler.
Il faut que vous puissiez en parler le plus possible. Mais alors, puisque vous parlez, c'est vous qui le dites, c'est vous qui prononcez ce grand mot de paradigme. En quoi ça vous paraît un retournement paradigmatique ? Parce qu'on voit bien en quoi c'est une découverte, mais alors allez-y. En quoi vous pensez que ça va, d'une certaine manière, féconder, ou c'est déjà en train de féconder, tout le champ de la réflexion, que ça soit du côté des sciences exactes ou du côté des sciences humaines ?
En fait, je pense que ce que je souhaite, c'est que ça permette un meilleur rapprochement entre les sciences humaines et les sciences biologiques, et notamment qu'il y ait une décrispation que l'on trouve des fois en sciences humaines par rapport à la génétique, en montrant que des études génétiques, au lieu d'essentialiser, de réifier des individus ou des populations, montrent au contraire que finalement, c'est les paramètres culturels qui influent sur la biologie et donc sur la génétique. Et c'est en ce sens-là, à mon avis, que ça peut être intéressant. C'est-à-dire que les idées de ce type-là, je suis pas la seule à les porter, il y a d'autres gens qui les portent, diffuse petit à petit en sciences humaines pour reféconder les interactions et le travail conjoint avec les gens en sciences humaines.
Et est-ce que Luis Quintana, puisque vous vous intéressez beaucoup, vous l'avez expliqué tout à l'heure, aux questions épidémiologiques, est-ce que vous, éventuellement vous pourriez nous donner un exemple de la manière dont l'anthropologie peut modifier la manière dont nos gènes ou les gènes d'une population donnée, disons, s'adapte ou mute par rapport à des pathogènes ou à des maladies potentielles.
Bien sûr. Et même, on pourrait ajouter à cette binôme que vous venez de faire, que c'est génétique et environnement, notamment un environnement pathogénique, culture aussi. Donc les trois choses sont indissociables. Et pour cela, je vais par exemple je vais parler du terrain en Afrique centrale avec lequel on travaille aussi avec Evelyne, en gros Gabon et Cameroun, où on trouve deux types de modes de vie différents. Chasseurs-cueilleurs, connus comme pygmées, et des peuples d'agriculteurs villageois à langue bantoue. Alors, le mode de vie différent de ces deux populations, c'est les uns sont plutôt en forêt et des chasseurs-cueilleurs, en tout cas historiquement, et les autres se sont sédentarisés dans les dernières 2, 3000, 4000 ans et habitent dans des villes ou des villages. Ça, on sait aujourd'hui qu'ils ont eu, et ils ont toujours encore, des comportements et des modes de vie différents. Donc là, c'est de l'ordre du socioculturel. Comment ça va impacter déjà leur patrimoine génétique ? Et leur adaptation à l'environnement. Très simple. Les unes, c'est-à-dire les pygmées, sont restées...
Donc, les chasseurs-cueilleurs.
Les chasseurs-cueilleurs. Pygmées. C'est une population qui est restée une population de petite taille à niveau populationnel. Et les autres, ils ont subi une expansion démographique. expansion démographique, là on a montré via la génétique que l'expansion démographique reliée à l'agriculture n'était pas la conséquence de l'agriculture. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un groupe de chasseurs-cueilleurs fait l'agriculture que ça impliquait une grande expansion démographique. On a pu montrer, il y a 2 ans, je pense, que ce groupe de chasseurs-cueilleurs ont subi une expansion démographique, et c'est après que pour cela, ils ont adopté la nouvelle technologie, c'est-à-dire l'agriculture.
À peu près, il y a combien de millénaires ?
Ils ont adopté l'agriculture dans les dernières 3000 ans. On a montré aussi, pour revenir aux maladies infectieuses, qu'on sait aujourd'hui que la taille d'une population va avoir un impact majeur sur notre facilité d'adaptation génétique à l'environnement. Donc, vous pouvez bien comprendre que s'il y a une population de petite taille, de populations comme les chasseurs-cueilleurs, peut avoir une adaptation génétique à leur environnement forestier, avec des cocktails pathogéniques différents, bien différents qu'une population d'agriculteurs, que c'est sédentarisé, qu'en plus ils ont une taille de population beaucoup plus importante, qu'en plus l'agriculture a coïncidé avec la domestication des animaux, donc potentiellement des zoonoses. Donc qu'est-ce qui se passe? L'homme devient agriculteur et il commence à se sédentariser avec tout ce que ça implique à niveau cohabitation avec des résidus fécaux et toutes les maladies comme le choléra et autres que se transmet à cause de la saleté, la cohabitation avec les animaux. Et en plus que certains virus et certaines bactéries nécessitent une masse critique de population pour rester infectieux dans la population. Et ce qu'on étudie, nous, c'est essayer de comprendre comment les tailles de population, leur mode de vie, vont influencer la façon dont elles s'adaptent aux différents pathogènes.
C'est tout à fait impressionnant comme renversement. Est-ce que, toujours pour rester sur ce renversement, Evelyne Ayer, vous voudriez bien développer un petit peu l'exemple du mariage que vous avez évoqué tout à l'heure? En quoi, encore une fois, sur votre terrain en Asie centrale, vous avez pu corréler et puis à partir de cette corrélation, supposer ou faire l'hypothèse, en tous les cas, que la manière de se marier pouvait modifier le patrimoine génétique.
En fait, l'idée est intuitivement, quand on l'explique, c'est assez simple. C'est que si vous êtes un groupe un peu, on dit endogame, c'est-à-dire vous vous mariez plutôt à l'intérieur d'un village, vous échangez moins de conjoints avec le village d'à côté, et de ce fait-là, les patrimoines génétiques dans les deux villages vont un peu évoluer indépendamment les uns des autres, et par le hasard, peuvent devenir différents. Et à l'inverse, si vous migrez, vous faites que les villages se rapprochent génétiquement. Et donc, ce qu'on a constaté en Asie centrale, c'est qu'en général, dans l'espèce humaine, ce qu'on voit, c'est qu'on a des mariages de proche en proche. C'est-à-dire que, grosso modo, quand on va chercher époux, on va chercher dans le village d'à côté. Ce qui fait que, d'un point de vue génétique, toutes les populations humaines se ressemblent en fonction de la géographie. Vous ressemblez plus génétiquement, une population ressemble plus à une autre, qui n'est pas loin, quoi. Vous ressemblez plus à une population à 20 km qu'à une population à 2000 km. Ça se fait génétiquement, pour ressembler génétiquement. Et donc ça, c'est ce qu'on dit de proche en proche. Et ce qu'il y avait d'intéressant en Asie centrale, c'est qu'on voit très peu cet impact de la géographie. Il existe un peu, mais très peu. Les populations, il y a des populations qui sont pas loin les unes des autres, mais qui sont assez différentes génétiquement. Et à l'inverse, vous avez des populations qui sont très loin géographiquement les unes des autres, mais qui se ressemblent beaucoup génétiquement.
Comment on explique ça?
Eh ben voilà. Donc l'idée, c'est après de se dire, comment on explique ça? Et c'est là où finalement nous, on a fait une étude linguistique assez poussée qui nous a permis de calculer ce qu'on appelle des distances linguistiques. C'est-à-dire, en plus de ces distances géographiques faciles à calculer, on a vraiment calculé des proximités linguistiques. Et on a vu que, en fait, c'était cette proximité linguistique qui expliquait cette proximité génétique. C'est-à-dire que nos populations qui se ressemblaient
carrément, qui l'expliquaient. C'est pas une corrélation.
Qui l'expliquaient. C'est un lien entre les deux. Hein. Ça marche dans les deux sens, comme d'habitude. Culture et génétique marchent dans tous les deux. Mais en tous les cas, votre population qui est loin géographiquement, mais qui ressemble à l'autre génétiquement, elle lui ressemble linguistiquement. C'est-à-dire, elles vont être proches linguistiquement. C'est pour ça que...
Et là, vous avez des hypothèses explicatives sur cette ressemblance.
En résumé, c'est ça. En résumé, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a deux facteurs qui peuvent expliquer ça. Je préfère aller me marier, donc échanger mes gènes avec quelqu'un, même s'il habite loin, mais s'il est proche linguistiquement. Donc, j'échange des gènes avec une population qui me ressemble plus linguistiquement. Donc, je vais me ressembler génétiquement. Et... en cofacteur aussi, il y a le fait que certainement la génétique et la linguistique peuvent évoluer en plus de concert. Ça, c'est ce qu'on est en train de tester à l'heure actuelle. C'est un peu plus compliqué.
Alors, puisqu'on parle de ressemblance génétique, permettez une question de Béotien. Vous entendez quoi en fait par ressemblance génétique? Parce qu'évidemment, quand on n'est pas comme vous des spécialistes, on peut se dire « oulala, mais alors on est très très différents ». Mais fondamentalement, quand vous parlez de ressemblance génétique et de dissemblance génétique, ça se joue à la marge, n'est-ce pas?
Oui, en gros, on est tous presque des clones au niveau de notre génome. Sur les 3 milliards de bases, si vous prenez deux personnes au hasard et d'une façon indépendante à leur origine géographique et ethnique, ils vont partager 99,9% de leur génome.
Ah oui, c'est énorme.
C'est énorme. Donc, si en génétique de population, on peut travailler, c'est quelque part grâce à cette 0,1% des différents qui restent quand même très informatifs. Et pour comprendre notre histoire démographique, origine de l'homme, migration, échange, mélange, etc. Et une autre partie de ces mutations vont nous permettre d'étudier notre histoire adaptative, la façon dont génétiquement, parce qu'il y a d'autres façons de s'adapter ou de répondre à l'environnement, la façon dont génétiquement on va s'adapter à l'environnement.
Comme la couleur de peau, par exemple.
Par exemple, c'est-à-dire?
Eh bien, la couleur de peau, on sait que c'est des adaptations à l'environnement. On voit dans les...
À l'ensoleillement.
La grande hypothèse, c'est ensoleillement et alimentation. Il y a un lien entre les deux. Il y a pas mal de recherches en cours. Mais on va dire, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effet de l'ensoleillement. Qu'on voit bien, si on fait une carte de la couleur de peau et qu'on superpose une carte de l'ensoleillement à travers toute la planisphère, on voit bien que ça matche très bien. Les couleurs de peau plus foncées sont plutôt dans les zones d'ensoleillement fort et les couleurs de peau claires dans les zones d'ensoleillement faible. Mais maintenant, on en sait un peu plus grâce à la génétique.
En tous les cas, je crois entendre qu'il y a des différences marginales au sein finalement d'une même espèce. C'est bien ce qu'on dit. Et si vous le voulez bien, je voudrais vous entendre réagir à un court extrait, c'était encore sur France Inter, décidément, le 24 mars 2010, d'un entretien accordé par... Pascal Pic, le fameux paléo-anthropologue, puisque nous sommes là pour faire des liens, ou en tout cas illustrer le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de génétique sans faire de lien avec les sciences humaines.
Alors l'intérêt, c'est qu'ils ont pu extraire de l'ADN mitochondrial, et en le comparant à l'ADN d'Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, et de l'ADN de Néandertal, dont on dispose maintenant de beaucoup d'échantillons, ils ont pu montrer que l'ADN de cet homme qui reste à identifier, mais c'est un homme, est deux fois plus différent qu'entre Néandertal et nous. Alors, quand on sait que Néandertal, qui est l'homme européen, et nous, les Homo sapiens, qui sommes des Africains, nous nous sommes séparés vers 500 000 ans, ben, ça veut dire que cette branche, qui n'est représentée que par cette petite phalange, mais avec cet ADN très précieux, eh bien, s'est séparée il y a environ 1 million d'années. Donc, ce qu'on connaissait déjà sur l'Europe, l'Afrique et le Proche-Orient, c'est-à-dire l'émergence de deux espèces contemporaines, Néandertal au nord et nous au sud, les Homo sapiens, eh bien ce schéma commence à se dessiner sur l'Asie et révèle une diversité d'hommes qu'on avait du mal à soupçonner il y a encore très peu de temps, il y a seulement 40 000 ans sur cette vieille Terre.
Donc ça c'était Pascal Pic donc, expliquant en 2010 l'importance de la découverte de ce nouvel hominidé vivant en Sibérie il y a 40 000 ans donc, sur le site de Denisova. Est-ce que ça vous paraît particulièrement bien illustré, Evelyne Ayer et Louise Quintana, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la distance géographique ne recouvre pas forcément, mais parfois oui, la distance génétique? Cette découverte qui vient complexifier encore, on va dire, la diversité au sein des hominidés.
Là, quand je parlais de diversité génétique et de diversité géographique, c'est plutôt ce qu'on dit un schéma à l'intérieur de notre espèce. Homo sapiens. Quand on compare avec Néandertal et Denisova, on est plutôt dans des croisements inter-espèces ou inter-sous-espèces.
Mais c'est possible, enfin, ça selon... Parce que, là, encore une fois, permettez à nouveau que je vous pose une question béotienne, mais j'avais retenu et j'avais cru comprendre que si on voulait caractériser une espèce ou définir une espèce de manière simple et compréhensible par tous, c'est que une espèce se caractérise par le fait que ses individus, membres de cette espèce, ne peuvent pas se reproduire avec des membres d'une autre espèce. Et là, on suppose en tous les cas que, par exemple, l'homme de Néandertal et l'homo sapiens, à un moment donné, se sont croisés et puis il en est ressorti.
Alors, c'est la définition simple qu'on met dans les manuels scolaires, parce qu'il faut commencer par une définition simple qui, bien sûr, après, quand on fait de la recherche, se complexifie.
Donc, grâce à vous, je vais monter en connaissance.
Et ça, c'est la réponse que donne Aveline, c'est la réponse polie, élégante, parce que cette même question...
Pour dire que c'est tout faux ce que j'ai dit.
Non, parce que j'ai récemment entendu cette question... J'étais en cours à l'ENS à Lyon, il y avait un grand généticien, pas français, donc je ne donnerai pas le nom, qu'on lui a posé cette question. Il a dit, je ne veux pas répondre à cette question parce que c'est une question non pertinente.
Et pourquoi?
Parce que c'est... Pourquoi vouloir mettre dans une caisse des choses de cette façon tellement 19e? C'est-à-dire, la preuve, aujourd'hui, on sait, il y a une grande partie grâce à la génétique, qu'au moins... qu'il y a eu des échanges génétiques entre ces deux hominidés, espèces, on peut les appeler comme on veut, et qu'au moins une partie des descendants, parce que ça on ne sait pas, au moins une partie des descendants a survécu. Parce que nos gènes, en gros avec Néandertal, ça doit être environ 2% de notre génome, c'est ça?
Entre 2 et 4%.
Entre 2 et 4% de notre génome aujourd'hui d'Homo sapiens est d'origine néandertalien, mais ces 2-4%, c'est une moyenne. Il y a des régions de votre génome qui montrent 67% de néandertalitude, si je peux m'exprimer ainsi.
Ah oui, mais c'est un très beau mot.
Oui, donc ça veut dire que certains de nos gènes, ils ont très très peu, en général, évidemment, de néandertal, mais certaines autres parties de nos gènes peuvent avoir un taux de néandertalitude extrêmement élevé. Et un des travaux qu'on a fait récemment à l'Institut Pasteur, on a montré que les gènes de l'immunité innée, par exemple, c'est-à-dire... Quand on est infecté par n'importe quel pathogène, l'immunité innée, c'est un système cellulaire qui va venir avec des récepteurs qui vont directement reconnaître qu'un pathogène ou quelque chose en tout cas d'étranger ou de potentiellement dangereux est rentré dans votre corps. Donc les gènes de l'immunité innée sont enrichis à néandertalitude. Ce qui montre que cette mélange qu'on a eu dans les dernières 40-50 000 ans avec Néandertal a pu nous amener des choses très avantageuse.
Des adaptations.
Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, ou vous allez trouver que, comment dire, j'exagère, que j'instrumentalise un peu, jusqu'à dire que, donc en fait, grâce à là où on est aujourd'hui, la recherche en génétique, on peut dire que, grâce à vous donc, qu'il n'y a pas d'espèce humaine sans métissage.
Ah ben oui, si vous voulez, on peut le dire.
Bah, je ne sais pas si le mot métissage est un concept en biologie.
C'est une constante de notre espèce, la migration. On est une espèce qui bouge.
Oui, voilà. Mais vous dites migration, moi j'ai dit métissage.
Oui, bah pour moi, c'est la même chose, si vous voulez. Peut-être que pour vous, métissage, c'est quand c'est des migrations entre des choses plus différentes. Mais c'est la même chose, je veux dire, on est une espèce profondément migratoire. On n'est pas, d'ailleurs, si vous comparez aux autres primates non humains, nous, on n'est pas restés, entre guillemets, dans notre berceau, dans un endroit inféodé. On a colonisé la planète entière. Donc, on aime bouger. On est une espèce qui adore bouger. Donc, inévitablement, quand on bouge, eh ben, on va rencontrer d'autres gens, on va se mélanger avec eux, et donc, on va faire du métissage.
Écoutez ce qu'on disait. Alain Froment, que vous connaissez, je crois, médecin et anthropobiologiste. Et vous me direz si vous ne trouvez pas qu'il exagère un peu, lui.
Finalement, on est la seule espèce animale qui a colonisé absolument tous les pays, tous les climats, tous les endroits de la planète. Et pourquoi est-ce qu'on a été capable de faire ça? En fait, tout simplement parce qu'on était plus intelligent que les autres animaux. Vous voyez, par exemple, la taille du cerveau a triplé en 3 millions d'années. C'est énorme, hein, comme évolution d'un organe. Et cette sélection a permis à l'homme de développer de plus en plus de technologies pour s'inventer un corps de plus en plus puissant.
Alors, Louise Quintana et Evelyne Ayer, quand Alain Froment a dit « parce que l'homme est plus intelligent », vous avez éclaté de rire l'un et l'autre. Évidemment, on ne l'a pas entendu à l'antenne, puisqu'à l'antenne, on était en train de passer notre archive. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous trouvez vraiment qu'il exagère, Alain Froment?
Je ne sais pas s'il exagère. Il dit une... Ça fait beaucoup de sens, ce qu'il dit, si on se place dans une vision de l'intelligence très anthropocentrique. La façon dont nous, on comprend l'intelligence, ou la façon dont on peut la comprendre, c'est nos limites humains.
Oui, vous voulez dire, comme on est des êtres humains, on comprend l'intelligence comme étant une caractéristique de l'être humain.
Tout à fait. Et on comprend l'intelligence, vous voyez bien, comme la capacité à faire des innovations technologiques. Voilà, c'est la définition qui est utilisée dans la phrase d'Alain Froment. Donc si on résume l'intelligence à la capacité d'innovation technologique, alors oui, nous sommes plus intelligents, mais l'intelligence, elle peut prendre énormément de formes. Donc ça dépend de la définition qu'on donne de l'intelligence.
Si l'intelligence était peut-être l'empathie, la générosité, l'esprit de groupe, je ne suis pas hyper sûr qu'on est les plus intelligents.
C'est pour ça qu'il faudrait donner des droits aux animaux. Bon, là, je sors un peu du sujet, mais vous, en tant que biologiste, est-ce que vous êtes favorable au fait qu'on donne des droits aux animaux ?
En tous les cas, moi, en tant que biologiste, j'aimerais quand même qu'on réfléchisse que quand une espèce disparaît, c'est un processus de millions d'années d'évolution. Donc, quand une espèce disparaît, on n'est pas prêt de la reconstruire. Ce n'est pas du même niveau que quand une technologie disparaît ou quand une voiture disparaît. Il faudrait quand même que les gens remettent un peu ces disparitions dans une idée de perspective historique. On perd 2, 3, 4 millions d'évolutions, quoi, quand une espèce disparaît. Et moi, je trouve ça vertigineux.
Claude Agege dit à peu près la même chose, les millions en moins, quand on perd une langue, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Mais du coup, faut quand même que vous nous donniez, Evelyne Ayer, la définition de l'espèce. Parce que j'ai donc dit quelque chose qui était un peu daté. Mais alors, du coup, il faut éclairer les auditeurs. Enfin, certains le savent déjà, bien entendu. Mais, ça ne fait jamais de mal de rafraîchir la mémoire de tous.
En plus, quand on est avec Néandertal, c'est compliqué. Parce qu'on croise deux définitions d'espèces qui déjà étaient complètement différentes. Les espèces vues par les paléanthropologues. Vous savez, en paléanthropologie, on ne pourra jamais savoir si quelqu'un s'est croisé avec quelqu'un. Donc, l'espèce, elle est définie comme quelque chose de suffisamment différent de ce qu'on a trouvé avant pour que ça justifie de le mettre dans un autre tiroir et de ce fait-là de pouvoir l'analyser à part de l'autre groupe. Je dirais que c'est plutôt on en a besoin, c'est plus simple. Par exemple, je vous montre un crâne de Néandertal, un crâne de Sapiens, c'est facile, ils sont différents, on les met dans deux boîtes différentes. Mais il n'y a jamais eu en paléanthropologie l'idée qu'ils pouvaient se croiser ou pas se croiser, vu que de toute façon, on n'en était pas capable. Par contre, dans le règne actuel où on peut vérifier des croisements, l'espèce, c'est plutôt une limite floue, c'est-à-dire, en gros, vous vous reproduisez mieux avec quelqu'un de votre espèce qu'avec quelqu'un d'une autre espèce à côté. On voit dans la nature, dans quelques rares cas, des croisements entre espèces qui marchent plus ou moins bien. Mais si vous voulez, on est plus dans des délimitations un peu moins rigides qu'avant. Et un collègue s'était amusé à faire une recherche à un étudiant qui avait trouvé environ 40 définitions différentes du mot espèce.
Oui, ce qui veut dire que dans votre changement paradigmatique, vous faites aussi éclater la notion traditionnelle de frontière, finalement.
On peut dire ça.
Louise Quintana, on peut dire ça?
Complètement.
Et alors, est-ce que ça vaut aussi pour la notion ou l'acception traditionnelle de frontière entre l'homme et son environnement, pour ne pas dire entre la culture et la nature? Louise Quintana. Est-ce que dans le cadre de cet immense... déblaiement conceptuel auquel vous participez l'un et l'autre avec tous vos collègues en faisant de la génétique des populations, est-ce que vous êtes amené à repenser la notion de frontière, entendue ici, la frontière qui sépare l'homme et l'environnement, ou l'homme et la nature, ou la culture et la nature?
Oui, surtout en intégrant aussi de nouvelles données, de nouvelles disciplines et de nouvelles approches, comme par exemple la relation homme-environnement. Là, il y a l'épigénétique qui joue un rôle majeur.
Alors, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'épigénétique, et après je vais vous dire pourquoi ça joue un rôle bien majeur sûr. Dans notre, je dirais pas adaptation, mais réponse au changement environnemental. L'épigénétique, c'est tout ce qui va toucher l'activité de nos gènes, c'est-à-dire que ce gène soit plus ou moins exprimé, donc qu'on soit plus ou moins grand, plus ou moins mince, plus ou moins susceptible au paludisme, sans en changer la séquence de l'ADN. C'est-à-dire, vous, deux juments homozygotes, ils ont la même séquence de l'ADN, mais leur vécu, ce qu'ils vont manger, l'environnement social dans lequel ils vont grandir, leur exposition à certains pathogènes différents entre les deux, ceci va modifier l'activité de leurs gènes.
Vous culturalisez les gènes, en fait. Vous en parlez presque comme si c'était des individus.
C'est une façon de culturaliser les gènes. Et c'est
l'épigénétique. Ou vous les socialisez.
On les socialise. On les socialise.
Ben oui, c'est vrai, non ?
Exactement. Et par exemple, dans ce cadre, on a pu montrer, toujours avec le muséum et les pygmées et agriculteurs, que quand deux populations génétiquement semblables, mais qui habitent dans des environnements très différents, en gros, forêt versus village ou ville, leur patrimoine, on va dire épigénétique, va changer autant que deux populations qui sont génétiquement très différentes. Autrement dit, si on compare des agriculteurs de forêt avec des agriculteurs de ville, leur patrimoine génétique, on va dire, c'est le même, à peu près. Mais leur patrimoine épigénétique...
Donc la manière dont ce patrimoine s'exprime...
Voilà, est très différent.
Est très différent et va principalement toucher les fonctions immunitaires. C'est-à-dire, notre sédentarisation et notre urbanisation va principalement toucher l'épigénome relié à la façon dont on va réagir, pas seulement aux pathogènes, mais à tout ce qui découle des problématiques du système immunitaire. Allergies, inflammation, auto-immunité.
Vous avez prononcé le mot urbanisation. Dès qu'on parle d'urbanisation, on est sur un pas de temps qui est très très court par rapport au pas de temps qu'on a évoqué précédemment, que ce soit la sédentarisation, que ce soit, on va dire, le passage de la cueillette à celui de l'agriculture, sans même parler de ce qu'on disait tout à fait au début de l'émission, Evelyne Hier, à savoir ce que vous appelez, vous, les généticiens et les paléoanthropologues, la sortie de l'Afrique.
Ouais.
L'urbanisation, c'est un pas de temps très court. Là, on n'est plus du tout sur... Enfin, on peut éventuellement, c'est vrai, dire qu'il y a quelques villes, quelques organismes urbains qu'on peut faire remonter à peut-être 3000 ans, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais enfin, en général, l'urbanisation, c'est quand même un phénomène relativement contemporain, on va le dire comme ça. Comment vous faites, Luis Quintana, justement, pour, comment dire, observer ces mutations épigénétiques sur des pas de temps si courts? Ça veut donc dire que ça se passe vite, finalement.
Justement, parce que le mode opératoire de la génétique et de l'épigénétique est complètement différent. Il y a un changement environnemental rapide, un changement de mode de vie rapide, une famine, des choses qui se passent en très peu, voire une seule génération. On va pouvoir faire face à ce changement avec notre système épigénétique. C'est quelque chose d'extrêmement flexible. Mais il n'est pas si pérenne, cette façon dont on va répondre à l'environnement. Attention, je ne dis pas on va s'adapter à l'environnement. Je dis on va répondre à l'environnement avec ce système épigénétique flexible et facilement bougeable, on va dire. En revanche, la génétique, elle est beaucoup plus lente. Ça met très très longtemps, quand il y a une mutation qui apparaît, pour que cette mutation augmente en fréquence dans la population, parce que cette mutation, par exemple, va nous permettre de digérer le lait.
Ça prend 5 000 ans.
Exactement. Même dans les modèles les plus optimistes, c'est 4 000 à 5 000 ans.
C'est 4 000 à 5 000 ans. Ouais.
Mais, ça prend beaucoup de temps, mais une fois la mutation est là, c'est une adaptation génétique beaucoup plus pérenne. Que l'épigénétique est très flexible, mais
les modifications épigénétiques, elles se transmettent comme des caractères héréditaires ou pas?
C'est encore très débattu. Hein. Il y a quelques exemples sur une génération, mais pas sur deux, ou quelques exemples sur deux qui sont oui, qui sont réfutés.
Enfin, chez l'homme, c'est très débattu.
Oui.
Il y a des travaux, si je me rappelle bien, en Hollande, suite à la famine, sur quelques générations. Donc, en principe, bien sûr, je suis d'accord avec Evelyne, sauf quand l'épigénétique est aussi sous contrôle génétique. Et à ce moment-là, on rentre dans le,
Attendez, expliquez-nous.
Dans le système génétique.
Ça veut dire quoi quand l'épigénétique est sous contrôle génétique?
C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, je parle notamment de la méthylation de l'ADN. Qu'est-ce que c'est la méthylation de l'ADN? C'est pas autre chose qu'à côté de votre gène, vous ajoutez un groupe méthyle, peu importe, et cet ajout va faire que votre gène sera moins exprimé. Mais cet ajout de groupe méthyle peut être sous le contrôle d'une mutation plus loin. Et donc, du coup, dans ce cas-là, ça sera parfaitement héritable.
Voilà, mais avec des patterns qui correspondent plutôt à ceux de la génétique.
Ouais. C'est-à-dire, Louise Quintana, Evelyne Heyer, puisque vous avez tout à l'heure parlé de musicologie, est-ce qu'on peut dire que... C'est une métaphore, hein, donc vous avez...
Peut-être... Attention, attention.
peut-être qu'elle n'est pas du tout adaptée, mais est-ce qu'on peut dire que les mutations génétiques, c'est un peu comme en musique, les lignes de basse, quoi, si vous voulez, et puis les mutations épigénétiques, c'est les variations?
C'est joli, en tout cas.
C'est les bémols. On ne dit pas les bémols.
On peut, bien sûr. On
ou
peut.
Plutôt les bémols, oui.
C'est des choses qui vont légèrement changer la note.
Cet exemple du lait, est-ce que vous pouvez le développer? J'en parle parce que...
Ah oui, moi j'aime bien parce que c'est le plus bel exemple, on dit, d'adaptation un peu nature-culture, de biologie.
Puis il est très parlant.
De bioévolution, bah, c'est facile. En tant qu'être humain, comme tous les mammifères, normalement, on peut digérer le lait quand on est enfant, mais normalement, chez tous les mammifères, ça t'arrête au moment du sevrage. Et normalement, l'enzyme qui permet de digérer le lait ne fonctionne pas quand on est adulte. Or, il se trouve qu'il y a des populations humaines où plus de 80% des adultes peuvent digérer le lait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Tout le monde peut boire un verre de lait, mais je veux dire, quand ils ingèrent des grandes quantités de lait, ils sont pas malades. Et donc, il y a quelques années, le mécanisme génétique a été trouvé. On a connu le gène qui explique ça. C'est des variants génétiques et on a pu montrer qu'ils ont été sous sélection. C'est-à-dire que ça a été à un moment donné avantageux dans certaines populations de porter des variants qui permettaient de digérer le lait quand on était adulte. On a trouvé des variants en Afrique, des variants au Moyen-Orient, des variants en Europe. Et avec les données génétiques, on a pu dater que l'avantage que procuraient ces mutations dataient du moment à peu près où ces populations s'étaient mis effectivement à l'élevage et à consommer beaucoup de lait d'élevage suite à la domestication. Donc on est dans un très bel exemple où c'est un changement culturel. On se met à domestiquer des animaux et à consommer une grande quantité de lait qui fait qu'une mutation qui existait avant est devenue avantageuse et a pu se répandre au fil des générations dans les populations. À tel point qu'au nord de l'Europe, 80 voire 100% des individus adultes digère le lait. En Europe, en France, on est environ à 50%. C'est presque nul en Asie. Et donc, nous, bien sûr, on s'est amusé à mesurer ça en Asie centrale.
Parce que quand vous dites en Asie...
En Asie, plutôt Chine. Et même Asie du Sud-Est. Les prévalences, enfin les fréquences de gens qui peuvent digérer le lait en tant qu'adultes sont très faibles.
Et donc, ça, pour vous, c'est directement relié au fait qu'il y a des traditions qu'on va appeler ancestrales, d'élevage.
Oui, qui ont changé l'environnement et donc qui ont rendu une mutation qui avant était neutre et servait pas à grand chose, l'ont rendue finalement, on dit, avantageuse. Et donc les gens qui portaient ces mutations-là, visiblement, se sont mieux reproduits, ont mieux survécu et ont transmis ce patrimoine de génération en génération. Et en partant de très peu de gens, ça a pu augmenter en fréquence jusqu'à atteindre des fréquences très élevées. Et c'est un bel exemple.
C'est un très très bel exemple.
Louise Alors Quintana. On retrouve la même chose dans des... Pareil, nous on a retrouvé la même chose dans des adaptations à l'alimentation.
Alors
dans
vous
des
vous dites adaptations.
Oui,
parce que tout à l'heure, Louise Quintana a attiré notre attention sur le fait que, et c'était une très jolie formule d'ailleurs, qu'il valait mieux éviter adaptation...
Pour
l'épigénétique. D'adaptation génétique à de l'alimentation, des adaptations génétiques aussi liées à la perception du goût. Donc on a tout un ensemble d'adaptations liées au changement de mode de vie.
Alors, je vais vous poser la question que je pose traditionnellement à tous mes invités dans Planète Terre lorsqu'on arrive à la fin de l'émission.
Ah, déjà ?
Déjà, il est déjà 53. Il nous reste malheureusement plus que quelques minutes à passer ensemble. Et on se débrouillera hein, pour qu'on puisse recommencer, parce que c'est vraiment passionnant tout ce que vous nous expliquez. Je pose toujours en fin d'émission une question tournée vers le futur. Bon, là, on a beaucoup parlé de passé, parfois de passé très très lointain. Est-ce que tout cela vous autorise, parce que peut-être qu'il n'y a pas de réponse scientifique, évidemment, à la question que je vais vous poser, vous autorise à dresser des scénarios ou des hypothèses sur comment nous serons, nous, les êtres humains, dans quelques millénaires, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ou par rapport au changement climatique, parce qu'après tout, dans ce livre, Une belle histoire de l'homme, hein, le livre du nouveau musée de l'homme que vous avez dirigé, Evelyne Heyer, vous écrivez hein, dans la conclusion. Vous l'avez dirigé, ce livre, et vous avez écrit un chapitre. Dans la conclusion de ce chapitre, vous écrivez « Notre diversité génétique est notre réservoir d'adaptation future. Elle pourrait nous aider face au nouveau contexte écologique favorisé par l'homme, par exemple ceux qui naîtront du changement climatique global. » Donc ça veut dire que vous êtes en capacité d'imaginer ou de faire des scénarios sur la manière dont on va changer notre patrimoine génétique et épigénétique en étant confronté au changement climatique. Comment est-ce qu'on sera dans plusieurs milliers d'années ou dans plusieurs centaines d'années, et où géographiquement?
Louis Quintana. Oui, je trouve que c'est... On a un grand potentiel adaptatif. En revanche, il ne faut pas oublier qu'on est, en tout cas dans les pays où on a des systèmes, par exemple, de santé, parce qu'à la fin, l'adaptation, ça se résume au fait de pouvoir se reproduire et ne pas mourir. On change un peu la sélection naturelle. On n'est plus dans un système purement darwinien. Heureusement, les vaccins, les antibiotiques, l'hygiène sont arrivés au début du XXe siècle. Donc le taux de mortalité dans les pays qui ont accès à tout ce que je viens de dire, que c'est loin d'être la règle.
Le cas partout, malheureusement.
Je ne dirais pas qu'on stoppe la sélection naturelle, mais on modifie légèrement la sélection naturelle, parce qu'on va sélectionner d'autres choses. On va sélectionner, par exemple, des gens qui sont plus ou moins répondants à telle thérapie qu'à des autres.
Alors moi, je répondrai là-dessus. Dans le sens où je suis d'accord avec Louis, on a moins de sélection naturelle sur la mortalité, en tous les cas, dans nos sociétés, mais on a une sélection forte sur la fertilité. Si vous prenez une classe d'âge, par exemple, les gens nés dans les années 60, vous avez environ 20% des hommes qui n'ont pas de descendants.
Là, donc, vous parlez à l'échelle de la planète?
Non, à l'échelle de la France. Les statistiques de l'INSEE, c'est entre 17 et 20% à peu près d'hommes qui sont nés dans les années 60 et
donc
qui n'ont pas de descendants.
C'est le phénomène de baisse de la fertilité.
Donc on a du potentiel pour de la sélection. Si vous avez 20% d'individus qui ne se reproduisent pas à une génération, si cette non-reproduction est liée à des facteurs génétiques, alors il peut y avoir de la sélection naturelle.
En l'occurrence, la baisse de ce qu'on appelle
la qualité
de fertilité. Du sperme.
Notamment sur la baisse de qualité du sperme, il y a des études au Danemark qui montrent qu'effectivement, c'est associé à certains variants génétiques. Et dans ce cas-là, on voit la sélection à l'œuvre. En très peu de générations, il y a certains variants du chromosome Y qui sont en train de disparaître de la population, parce que les individus qui les portent, avant ça allait très bien, mais dans le nouveau contexte écologique que l'on produit, nous, deviennent sous-fertiles, voire infertiles. Et c'est en ce sens-là que finalement, l'évolution, finalement, elle est encore en marche et qu'on a du mal à la prédire. On peut juste dire qu'elle va continuer. Et je suis d'accord avec lui, ce sera certainement moins sur la mortalité, mais plus sur la reproduction, sur la fertilité.
Un dernier mot, Louis Quintana?
Non, qu'en plus, sur ce sujet en particulier, relié, pas au changement climatique, mais aussi au changement que l'homme introduit. Notamment le cas de la Danemark, cette diminution dramatique de la quantité et qualité du sperme est due aussi aux pratiques d'agriculture massive et tous les
molécules. Industrielles et avec les pesticides,
industrielles, etc. Donc si on change le climat, on change les pratiques agricoles et on change, enfin bref.
L'exposition à toutes ces molécules estrogènes-like.
On en restera là. Planète Terre, c'est fini pour aujourd'hui. C'était donc comprendre les mystères du peuplement avec la génétique des populations. Evelyne Heyer et Louis Quintana, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. Alors je précise que, comme toujours, les liens vers vos publications, dont le livre dont vous êtes contributeur, hein, « L'homme peut-il s'adapter à lui-même », paru en 2012, et puis également Le titre du passionnant ouvrage de vulgarisation Une belle histoire de l'homme, donc livre que vous avez dirigé, vous, Evelyne Ayer, dans le cadre du nouveau musée de l'homme. Donc, les liens vers ces publications sont en ligne, ainsi que vos sites web, et tout cela sur la page planétaire du site de France Culture. Je remercie beaucoup Luc-Jean Reynaud, Nicolas Delmas, Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France qui nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de cette émission. Cette émission, vous pouvez l'écouter à nouveau en ligne ad vitam aeternam. J'ai appris ça la semaine dernière. Et puis, vous pouvez la podcaster. La durée du podcast, c'est toujours 1 an. Et puis, bien sûr, vous pouvez la partager sur mes comptes Facebook et Twitter. Merci beaucoup de votre attention. Demain, jeudi à 16h, ne manquez pas la marche des sciences. Aurélie Luneau évoquera de l'espion au big data, la science du renseignement, c'est-à-dire une histoire de l'homme et des services secrets.